Radio Kapi.
Début hier jeudi au Sénat de l'évaluation de l'état de siège. Au regard des contradictions entre les quatre membres du gouvernement auditionnés, la Chambre haute a décidé d'ajourner cette séance plénière. L'épidémie de choléra déclarée hier jeudi dans les deux zones de santé de Kalemie et Niemba au Tanganyika, 281 malades, dont 9 morts, sont enregistrés depuis 3 semaines. Notre invité est Émilien Dubiez. Il est ingénieur forestier au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD. Ce centre a publié mercredi dernier les résultats des études sur le bois énergie réalisées à Kinshasa et les provinces voisines qui l'approvisionnent. Bonjour à tous. Début hier jeudi de l'évaluation de l'état de siège au Sénat, 4 membres du gouvernement ont été auditionnés en vue d'obtenir les explications claires et sans ambiguïté. Face aux contradictions entre eux, le Sénat a décidé d'ajourner cette séance plénière. Les directeurs généraux des migrations et de l'Agence nationale des renseignements ont aussi été invités à cette évaluation. Michel Kifindangoy nous fait le point.
À l'issue d'un huis clos de quelques heures, le président du Sénat, Modeste Bahati, a annoncé l'ajournement de l'évaluation de l'état des sièges afin de permettre au gouvernement d'harmoniser les vues. Modeste Bahati Lukwebu.
Aujourd'hui, nous avions déjà entamé l'évaluation de l'état des sièges proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Le débat que nous avons engagé, après avoir entendu les membres du gouvernement, nous a amené à ajourner l'examen de cette question pour demander au gouvernement de pouvoir bien préparer ce dossier, d'harmoniser surtout les vues et d'éviter les contradictions.
Le président du Sénat promet de reprogrammer cette question lorsque les membres du gouvernement seront prêts.
Lorsqu'ils seront prêts, nous puissions les inviter par le biais du Premier ministre pour faire une évaluation correcte et sérieuse. Nous n'avons pas voulu éluder quoi que ce soit. La question est remise pour plus tard.
Notez que parmi les membres du gouvernement invités à l'évaluation de l'état des sièges au Sénat, il y a les ministres de l'Intérieur, de la Défense, des Finances ainsi que le vice-ministre de la Justice.
Pendant ce temps, au Nord-Kivu, le calme s'est rétabli progressivement dans une grande partie du groupement Bachalimokoto, c'est dans les territoires de Massissi. Selon des sources coutumières locales, cela est consécutif aux opérations militaires que l'armée poursuit dans la zone dans le cadre de l'état de siège. Les casques bleus de la MONUSCO viennent aussi de clôturer une opération des patrouilles de combat dans les environs de Mpati, dans la même entité. Bernard Danyangi nous en parle.
Un mouvement de retour de population ayant fui les affrontements est observé depuis 3 jours dans la localité de Kalungu et Lukweti, indique Baipong Neville, chef du groupement ad intérim de Bachalimokoto. Les forces armées de la RDC ont repris la semaine dernière le contrôle d'une dizaine de villages jadis occupés par la milice APCLS de Janvier Kalaheri, dont Lukweti, qui était son quartier général. C'est à l'issue des opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège dans cette zone. La MONUSCO, pour sa part, a déployé entre le 7 et le 21 septembre dernier une mission de patrouille de combat des casques bleus marocains en Pati, qui est une des premières localités à être reprise par les FARDC dans le cadre des mêmes opérations il y a environ 4 mois. C'était pour rassurer la population qui y est déjà retournée il y a plusieurs semaines, indiquent les sources de la mission. Les autorités coutumières locales expriment cependant un souci au sujet de l'activisme notamment d'FDLR Bazungu et aussi des rebelles FDLR qui campent dans la localité Boulende. Ces deux groupes armés inquiètent les civils dans au moins 9 localités où ils perçoivent des taxes parallèles aux habitants. Goma, Bernardin Nguy, Radio Kapi.
Dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira au sud Kivu, les déplacés internes de Kaololo ont été sensibilisés hier sur le risque lié aux restes explosifs de guerre. C'est le service de lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS, qui a mené cette sensibilisation après avoir procédé à la destruction des 2 grenades rendues par des éléments de groupes armés à la MONUSCO à Kaololo. Le principal message à porter sur le danger que présente le reste explosif de guerre dans la région des hauts plateaux de la chefferie des Bafouliro. Fiston Goma.
Le responsable du sous-bureau du service de lutte anti-mine des Nations Unies a déclaré, je cite, « On ne doit pas toucher ce qu'on ne connaît pas, notamment le reste explosif des guerres, et éviter tout contact avec ces engins explosifs car ils tuent. Éviter aussi de jeter quelque chose sur ces objets et les comportements les plus sûrs, et de le marquer en utilisant le marquage des circonstances, notamment le tas de pierres, les bois, les piquets et les nœuds d'herbe. » Elie Wageni était entouré par une dizaine de déplacés qui ont trouvé refuge à Kaololo. Cette zone présente des dangers énormes en termes mais des restes explosifs des guerres depuis les affrontements entre plusieurs groupes armés locaux et étrangers au mois de mars et avril dernier. La population sensibilisée a fait état d'autres restes explosifs des guerres jetés, ramassés ou identifiés dans la région. Cependant, l'équipe de UNMAS n'a pas eu accès à ces endroits faute de route. UNMAS a appelé les habitants à signaler tout objet dangereux au FRDC ou à la force onusienne qui se trouve sur place. La même activité de sensibilisation s'est déroulée à Minembwe dans le Haut Plateau et s'est poursuivie à Fizi Centre, à Baraka et à Bibokoboko dans les moyens plateaux du secteur de Mutambala. D'Ouvira Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
Au Congo central, l'Association congolaise pour la promotion des humains, ACPH, dénonce le manque de célérité dans l'ouverture de l'instruction sur l'assassinat depuis le mois d'août 2020 du député provincial Albert Simba Sukami, élu de Mbanza Ngungu et suppléant de l'ex-gouverneur du Congo central. À en croire son coordonnateur, ses dossiers ainsi que celui de 8 présumés assassins qui s'étaient rendus eux-mêmes avaient été transférés au parquet près la Cour de cassation à Kinshasa. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune suite pendant que des personnes qui jouissent de la présomption d'innocence sont toujours privées de liberté. Colin Mbala invite la justice congolaise à dire le droit de manière équitable pour que les commanditaires et les auteurs de ces crimes soient sanctionnés. On l'écoute au micro de Nana Purishmambu.
Nous sommes en train de s'inquiéter de pouvoir voir jusqu'à présent la procédure à l'instruction du dossier de l'assassinat de l'honorable Albert Timba Sukame Nzuzu, ici dans la province du Congo central depuis le 14 août 2020. Jusqu'à présent, le procès est sans suite. Or, en général, la population congolaise attend que le procès soit un procès public afin que les droits puissent être dits. Nous soupçonnons que c'est aussi un crime d'État. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait le respect de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, mais aussi de l'article 17 de notre Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, modifiée à ce jour, dont la justice doit être impartiale. Il faudra qu'il y ait un délai précis à l'instruction du dossier pour que les droits à charge ou à décharge de la personne qui est présumée innocente. Il y a 6 du moins des prévenus qui ont été arrêtés à l'assassinat de l'honorable Albert Simba Sukame. Mais jusqu'à présent, ces derniers ne sont pas jugés. Il n'y a rien. Nous nous posons des questions. Pourquoi cette lenteur?
Rappelons que le député provincial Albert Simba Sukame a été tué par balle par des assaillants non autrement identifiés devant sa femme et ses enfants le 14 août 2020 dans sa résidence du quartier Soyolibanga à Matadi. Il a été inhumé 2 mois après sans qu'un procès soit ouvert. Dans la province du Tanganyika, le maire de Kalemie vient de déclarer l'épidémie de choléra dans les deux zones de santé de Kalemie et Niemba. 281 cas, dont 243 pour la zone de santé de Niemba, sont notifiés jusqu'à ce jour. 9 personnes sont mortes de la maladie depuis 3 semaines. L'épidémie survient au moment où les infirmiers de l'hôpital général de référence observent une grève. C'est l'unique structure qui dispose d'un centre de traitement de choléra dans la zone. Le point de la situation avec François-Xavier Mibé.
Oui, j'étais malade, attaqué par le choléra.
Gilbert Mbouyou était enseignant dans une école primaire de Kalemie. Gilbert vient de quitter, il y a 24 heures, le lit de l'hôpital général pour avoir fait le choléra.
Il y a même des enfants tellement contaminés.
Le premier cas de l'épidémie de choléra a été observé à la 33e semaine. 3 semaines après, la maladie s'est étendue aujourd'hui dans les 2 zones de santé de Kalemie et Niemba. 4 décès sont déplorés dans la zone de santé de Kalemie et 5 autres de Niemba. Le maire de la ville s'est dit préoccupé. Gédéon Kakoudji Kalama.
Même l'hôpital, il y a déjà rupture en termes d'intrants. C'est pour cette raison que je lance un appel vibrant à tous les partenaires qui nous viennent en aide pour sauver les vies humaines.
L'épidémie que déclare l'autorité de la mairie intervient au moment où les infirmiers de l'hôpital général de référence observent une grève. À cette difficulté s'ajoutent les problèmes liés à l'accès de la population à l'eau potable. Le chef des centres de la régie des eaux, Gilbert Magala.
Quand il y a un malade qui se présente dans l'hôpital et qui n'est pas pris en charge, comprenez que c'est une maladie contagieuse et directement ça va se répandre. Et aujourd'hui, nous avons 2 pompes au refoulement et 3 pompes au niveau du captage. Ça nous permet quand même d'arroser la ville de Kalemie.
Kalemie, François Djabemibe, Radio Kapi.
Grève de personnel non médecin, le député national Ntumba Tshabola Bintou demande au ministre du budget de débloquer ce dossier en signant leur barème amélioré. L'élu de Katanda au Kasaï oriental l'a déclaré hier jeudi à Radio Okapi après la réunion qu'il a tenue mercredi à Kinshasa avec les différents syndicats concernés par cette grève. Il demande aussi l'implication personnelle du premier ministre pour décompter cette situation qui a déjà causé plusieurs dégâts, parmi lesquels des pertes en vie humaine. On écoute Ntumba Tshabola Bintou au micro d'Alain Irung.
En faisant le point de la situation, nous avons compris que le dossier est bloqué au niveau du ministère des Budgets, qui tarde à poser sa signature sur les barèmes améliorés des professionnels de santé non médecins, pendant que son collègue de la santé a déjà signé depuis la fin des négociations. Ce retard est en train de retarder la levée de la grève du personnel de santé non médecins, laquelle grève est en train d'engendrer plusieurs conséquences sur notre pays, notamment la non-prise en charge correcte des malades dans les hôpitaux de l'État, la fermeture de plusieurs services sous la responsabilité directe des professionnels de santé non médecins, la perturbation des calendriers de la chaîne vaccinale pour les enfants congolais et les femmes enceintes, voire la perte en vie humaine dans certains milieux ruraux de notre pays où seuls les personnels de santé non médecins prennent en charge les malades. Sur ce, nous demandons au ministre des Budgets de signer sans tarder les barèmes améliorés pour les comptes des professionnels de santé nos médecins et l'implication personnelle du Premier ministre afin de décanter la situation de nos compatriotes en détresse.
Pour sa part, le vice-ministre du budget rejette cette accusation. Il appelle plutôt tous les fonctionnaires au calme car le projet de budget a été déposé au Parlement. Élisée Bokoumouana précise aussi qu'étant donné que plusieurs ministères ont déposé des nouvelles grilles barémiques, le ministère du budget a obtenu du Premier ministre la permission de les revoir au cas par cas. On écoute le vice-ministre du budget dans cet extrait choisi par Alain Rung.
Le budget que nous avons élaboré pour l'exercice 2022 a pris en compte un certain nombre d'éléments du ministère de la Santé, un pour les médecins et pour d'autres catégories professionnelles, y compris les administratifs et les docteurs en thèse. Donc, on ne peut pas s'alarmer aujourd'hui, c'est parce que le budget, ça a été présenté au niveau de l'Assemblée nationale, quitte à programmer pour les débats qui sera présenté par le Premier ministre, et ça sera un travail qui sera fait au niveau de l'ECOFIN, et après ça va monter au niveau du Sénat et la promulgation par les chefs de l'État. Au stade actuel, par rapport au budget de l'exercice 2021 en cours, il a connu aussi ce budget, un budget rectificatif que nous avons déposé aussi au Parlement. Toutes les revendications, je dirais pas tout, c'est parce qu'il y a beaucoup de grilles barémiques qui sont venues des différents ministères. Et nous avons présenté les problèmes au niveau du Premier ministre. Nous sollicitons l'autorisation de pouvoir passer en revue au cas par cas.
La RTNC Bukavu a repris son signal radio et télévision depuis mercredi dernier. C'est là, après une semaine d'interruption, faisant suite à l'incendie de l'hôtel des postes de Bukavu où sont logées toutes les installations de ce média officiel. La reprise des émissions radio et télé de la RTNC Bukavu est rendue possible par une forte légation dépêchée à Bukavu par la direction générale.
Actualité internationale.
En Russie, l'opposant emprisonné Alexei Navalny a accusé hier Apple et Google de collaboration avec le Kremlin, les deux géants du numérique ayant supprimé son application consacrée aux législatives à la demande des autorités russes. Si quelque chose m'a surpris lors des élections, ce n'est pas tant Poutine qui falsifie les résultats, mais comment la toute-puissante Big Tech est devenue docilement son complice, a lancé Navalny dans un message publié sur Instagram, les jugeant lâches et cupides. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, certains pays et organisations du processus de Berlin se sont rassemblés mercredi pour faire un point sur la situation en Libye. Co-animée par les ministres des Affaires étrangères français, allemands et italiens, la réunion s'est tenue à huis clos, mais les participants ont indiqué à l'issue que leur priorité était que tout soit mis en œuvre pour que les élections aient bien lieu le 24 décembre prochain. Ils ont aussi appelé le Conseil de sécurité à étendre le mandat de la MANUL, une composante essentielle, selon eux, pour assurer la paix et la stabilité en Libye.
L'invité.
Notre invité est Émilien Dubiez, ingénieur forestier au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD. Ce centre a publié mercredi dernier les résultats des études sur le bois énergie réalisées à Kinshasa et les provinces voisines qui l'approvisionnent. Études menées dans le cadre d'un programme piloté par le PNUD et financé par Initiative pour les forêts de l'Afrique centrale. Émilien Dubiez s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Émilien Dubiez, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de mener les études sur le bois énergie, notamment sur la ville de Kinshasa et les provinces voisines de la ville de Kinshasa. Je vais citer les Kwango, les Maindombe et bien sûr le Bakongo. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces études?
Alors avant tout, ces études ont été conduites dans le cadre d'un programme qui est le programme de consommation durable et substitution partielle au bois énergie, piloté par le PNUD et financé par l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale. Dans le cadre de ce programme, il y a différentes actions, dont une action de caractériser les pratiques de consommation en énergie domestique et de caractériser l'organisation des filières bois-énergie dans quatre villes de la RDC, Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Bukavu. Et aujourd'hui, nous sommes réunis avec les différents partenaires du secteur pour présenter donc les résultats de nos études sur la ville de Kinshasa. Et donc, les principaux résultats qu'on peut retenir, c'est qu'en termes de consommation, on a plus de 95% des ménages quinois qui utilisent le charbon de bois, avec une utilisation également de 66% des ménages qui utilisent l'électricité. Donc on a un mix énergétique que les gens utilisent, mais on a une dépendance plus importante au charbon parce qu'on a des problèmes d'accessibilité à l'électricité. Ce sont les deux principales énergies qui sont utilisées. On a deux types de consommateurs principaux. On a les ménages pour l'énergie de cuisson, pour préparer les aliments à la maison, pour la famille. On a également des artisans qui vont utiliser soit le charbon, soit le bois de feu comme énergie de production. Donc, la consommation globale de ces acteurs sur une ville comme Kinshasa, estimé à 12 millions d'habitants, on est sur une consommation de l'ordre de 17 millions de tonnes de bois par an. Alors l'origine, donc il y a à la fois, on peut avoir du bois énergie qui provient de forêts, de savanes, les savanes du plateau Bateke qui vont couvrir les provinces de Kinshasa et du Kwango, un peu du Bakongo, et de plantations.
Vous avez cité trois champs d'action de vos études, vous avez parlé des Goma, du Mbashi, de Kinshasa. Mais qu'est-ce qui a milité pour que ces études soient focalisées ici à Kinshasa dans un premier temps?
De par la taille de la ville, on n'a pas de chiffre précis, mais entre 12 et 15 millions d'habitants vivent à Kinshasa. Dans toutes les villes qu'on a enquêtées, 95% des ménages utilisent régulièrement le charbon. Donc par rapport à la dimension et la taille de la ville, on a des enjeux très très importants. Le charbon de bois à Kinshasa provient de 6 provinces, de 15 territoires, de 29 secteurs, avec les principales provinces qui sont la province du Congo central, la province de Kinshasa, la province du Kwango et la province du Maindombe, qui contribuent les plus à approvisionner la ville de Kinshasa.
La ruée vers le bois énergie, est-ce que vous ne croyez pas qu'il s'agit là d'un problème profond ici à Kinshasa, de la pauvreté? Et comment on peut remédier à cela?
Alors souvent on assimile le bois énergie à la pauvreté, ce qui est en réalité, moi je ne pense pas. Bon, il y a une dépendance forte du bois énergie, mais c'est une source de revenus pour beaucoup d'acteurs. 300 000 producteurs dans le bassin d'approvisionnement, 35 000 commerçants, 5 à 6 000 transporteurs qui sont impliqués dans la filière. Donc ça génère des revenus à beaucoup de gens, beaucoup de ménages. Ça c'est la première chose qu'il faut voir. Et la deuxième chose, c'est que la ressource en bois est une ressource qui est renouvelable si elle est gérer durablement. Et ça, c'est un aspect très important.
Est-ce que votre étude s'est penchée aussi sur l'impact de l'exploitation des bois énergie sur les territoires nationaux et notamment ici à Kinshasa? Son impact est sur les déboisements, il y a des conséquences quand même.
Alors non, l'étude qu'on a faite focalisait sur la consommation et sur l'organisation de la filière. Après, on a identifié donc les principales zones d'approvisionnement, mais on n'a pas fait un travail de terrain ou alors à partir d'images satellites pour caractériser l'évolution des différents types de végétation pour voir cet impact-là. On est en train de discuter avec les gens du programme pour voir si cette étude pourrait être faite a posteriori justement pour avoir une vision réelle en fait de l'impact de la production du charbon, étant donné qu'une bonne partie du bois utilisé pour produire le charbon vient des abattis pour l'installation des terrains agricoles.
Les résultats de vos études sont intéressants, on peut les dire, mais et après, quelle est la suite pour les bénéfices du peuple congolais?
Alors ces études sont intégrées donc dans le programme de consommation durable et substitution partielle au bois énergie, comme je vous l'ai dit, et donc il y a des objectifs qui sont de faciliter l'accès au gaz pour les populations à Kinshasa et de faciliter l'utilisation de foyers améliorés dans les autres villes d'études.
Émilien Dubiez, je vous remercie.
Merci à vous.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.